Père Philippe, métaphysique à Fribourg, le 16 novembre 82, premier cours.
Une minute de retard, c'est pas de ma faute. Alors si vous voulez, nous allons d'abord, question matérielle, puisque c'est l'organisation qui n'est pas toujours très commode au point de vue des cours, étant donné que je n'étant pas présent, les examens de cet après-midi que je dois faire passer, on les a mis pendant l'heure où normalement je donne des cours. Et une fois que les examens sont donnés, c'est sacro-saint, on ne peut plus bouger. Alors normalement, je donnais les cours de 14h à 16h, et on a fourré les examens au début de l'après-midi. Alors moi, je veux bien donner mon cours, mais je ne sais pas si vous, ça vous va, parce que ça vous regarde aussi bien que moi, hein, de 16h à 18h. Est-ce que c'est possible pour vous? C'est pas possible pour vous? Il y en a combien pour qui c'est pas possible? Il y en a combien pour qui c'est possible? Alors, je m'excuse à la majorité. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. C'est une erreur au point de vue organisation. Je l'ai su que quand c'était déjà décidé, moi j'avais demandé que les examens aient lieu après les cours, pour ne pas faire tomber les cours, mais pas toujours commode de tout arranger. Bon, alors ce soir, s'il y a des salles libres, hein, oui, une salle plus petite, puisqu'on sera moins nombreux, il y en aura trois qui tomberont. Bon, deuxièmement, encore une petite variété, je m'excuse, hein, c'est parce que c'est pas commode. J'avais organisé déjà mon année indépendamment des cours que je devais donner, on me les a demandés après. Alors, j'aimerais bien, si vous, ça ne fait pas de différence, ça ne vous gêne pas, qu'à la place, dans 15 jours, je viendrai plutôt le 23, c'est-à-dire dans 8 jours. Ça ne fera pas de difficulté. Il suffit de le savoir, parce que le 30, je dois aller donner une conférence à Toulouse le 29 au soir, et j'ai regardé que c'est quasi impossible d'être ici à 9h. C'est déjà pas commode quand on vient de Toulon, c'est pas commode, mais à Toulouse c'est absolument impossible. Alors, je viendrai donc le 23, là venant de Paris c'est très faisable, n'est-ce pas? Donc le 23, dans 8 jours, je prendrai les heures qui sont indiquées. N'est-ce pas? Bon. Alors, petite question, puisque nous continuons de poser les questions avant de continuer. Quelle différence entre une philosophie qui part des idées et une philosophie qui part de l'expérience interne? Est-ce qu'on peut dire que Descartes part de l'expérience interne du cogito, puisque dans l'expérience interne, vous distinguez trois types d'expériences, celle de la pensée, celle de l'amour, celle de l'esthétique. Bon, répondons tout de suite. Il s'agit du point de départ. Hein. Je vous ai dit, c'est important. Il faut au moins se poser la question, même si on n'arrive pas tout à fait à distinguer. Hein. Il y a une question à se poser. Il y a ce livre que je vous ai dit qui est intéressant, le livre du Père Maréchal au point de départ de la métaphysique. Ça vaut la peine d'être regardé, ça vaut la peine d'être consulté, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le Père Maréchal ne précise pas ce que je vous donne ici, mais il fait une espèce de grand topic historique sur le point de départ de la métaphysique. Bien, c'est très intéressant quand on essaie de voir attentivement quels sont les points de départ des philosophes. Souvenez-vous toujours ce que dit Aristote, cette petite phrase très simple, qui en Suisse prend une signification très particulière, que quand il y a à l'origine une petite variété, la variété est énorme au terme. Je crois que c'est très significatif, la source du Rhône et la source du Rhin. Le Rhin et le Rhône représentent quand même deux fleuves assez différents. Eh bien, quand vous regardez l'origine, vous voyez que c'est pas tellement varié, hein. C'est pas tellement loin. Alors, je crois qu'on peut faire la même comparaison. L'origine d'une pensée philosophique, il faut bien voir qu'au fond, les philosophes, au point de départ, peut-être, ne savent pas très bien. C'est pour ça que j'aime presque mieux, moi, prendre le point de départ. Mais si on prend le point de départ, il faut aussi regarder l'origine. Je crois qu'on peut regarder l'origine d'une pensée philosophique dans une position critique. À partir de quoi sont-ils partis ? Pour Descartes, c'est très net. Hein, Descartes le dit explicitement. C'est intéressant. Même si on est cartésien, on doit le faire. Voyez, on doit faire. Aristote le dit. Ce sont les deux philosophes qui le disent le plus. Platon le dit. Parménide le dit. Donc on a quand même des grands bons hommes qui vous disent à partir de quoi on est parti. Hegel aussi le dit. Donc il y a une question, hein, c'est une question philosophique intéressante à se poser. À partir de quoi la philosophie va-t-elle commencer? Les savants le savent aussi. Ça. On doit savoir le point de départ, c'est l'itinéraire. Hein. L'itinéraire d'une pensée, il faut savoir d'où on part. Où on va, c'est plus difficile. Hein. Parce qu'au point de départ, je ne sais pas où je vais. Est-ce que j'aboutis à l'homme? Est-ce que j'aboutis à un au-delà de l'homme? Je ne sais pas très bien au point de départ, hein, au point de vue purement philosophique. Je ne peux pas le savoir. Que j'aboutisse à l'homme, oui, ça je pourrais le dire. Sûrement, c'est le haut plateau du philosophe, l'homme. Alors il le retrouve toujours à tous les coins, et il revient tout le temps à l'homme. Mais je ne peux pas savoir si je vais découvrir autre chose. Les traditions religieuses me parlent bien qu'il existe une réalité au-delà de l'homme, mais le philosophe ne le sait pas, au point de départ. Ce serait un a priori. Une tradition religieuse acceptée au plan philosophique, tout simplement au plan philosophique, ce serait un a priori. Exactement comme la foi. La foi apparaît pour le philosophe comme un a priori. C'est normal pour le philosophe. Ça ne peut pas être autrement. Vous ne pouvez pas dire au philosophe, ah, tu n'as qu'à regarder. Mais non, 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 il ne voit pas. En tant que philosophe, la foi est une autre lumière. Les traditions religieuses sont autre chose. Je peux me dire, alors je peux faire le dualisme, vous voyez, je peux faire le dualisme que Brunswick faisait, n'est-ce pas ? Messieurs et mesdames, mettez à la porte votre sens commun, nous allons philosopher. Alors on peut très bien accepter un dualisme du sens commun quand nous faisons la cuisine, quand nous allons marcher, et puis quand nous venons ici faire de la philosophie. Alors il faut voir jusqu'où va ce dualisme dans l'homme, c'est une autre question. Est-ce que ce dualisme s'enracine dans l'homme jusqu'au bout, et donc nous acceptons délibérément qu'il y a dans l'homme des choses que je ne peux pas comprendre? Et c'est vrai, s'il y a quelque chose comme ça qui est vrai, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. La fameuse parole de Pascal, hein, le cœur a des raisons que la raison ne comprend pas. Alors on pourrait dire, mais oui, j'ai ma vie humaine et puis j'ai ma vie philosophique. C'est ennuyeux ça. Autant que possible, la philosophie doit pouvoir aller jusqu'au bout, je ne dis pas de l'explication, mais de l'intelligibilité de l'homme. Mais c'est très vrai que beaucoup de philosophies acceptent un dualisme très fort. C'est contre ce dualisme, il ne faut pas l'oublier, que Nietzsche s'oppose le plus violemment. Parce qu'il est en face d'une pensée platonicienne, c'est comme ça qu'il conçoit la métaphysique. Alors il s'oppose violemment contre ce dualisme, au nom de l'ordre. Parce qu'il y a une unité en nous. Alors c'est terrible d'accepter un dualisme au niveau philosophique, alors que nous vivons dans une certaine unité et que nous cherchons une certaine unité. Alors on doit se poser la question, est-ce qu'une philosophie peut accepter ou aller jusqu'au bout de cette unité qui est dans l'homme ? Ou est-ce que toute philosophie doit nécessairement accepter un dualisme et reconnaître un dualisme ? Oui, c'est une manière d'entrer, hein. Je vous pose certains problèmes parce qu'il faut. On entre en philosophie quand on se pose quelques questions. Si on ne se pose pas quelques questions, on n'entrera pas en philosophie. Alors, je vous avais dit la dernière fois, j'aime bien de le reprendre parce qu'on peut le reprendre d'une autre façon et peut-être que ça vous aidera à mieux le comprendre. Je pourrais dire, comprenez bien, que toute philosophie réaliste, donc qui veut aller jusqu'au bout, de l'explication de l'homme dans son unité, C'est ça que j'appellerai une philosophie réaliste. Accepter l'unité de l'homme dans sa complexité, mais aller jusqu'au bout de cette unité, essayer de vraiment, je ne dis pas de résorber la complexité dans l'unité, ce serait faux. Il faut accepter que dans cette unité, il y a une complexité, et que dans cette complexité, il y a une unité. L'unité de notre vie et la complexité de notre vie. Mais essayer de comprendre qu'en définitive, il y a une unité fondamentale en nous, unité radicale et peut-être unité ultime aussi, vers laquelle nous tendons, que nous n'expérimentons pas encore maintenant, mais vers laquelle nous tendons vers cette unité. Alors nous pourrions dire de cette manière, quel trépied, comprenez bien, de toute philosophie réaliste. Toute philosophie réaliste va impliquer une expérience externe, une expérience interne, une certaine intuition. Ce serait peut-être plus facile à comprendre.
C'est en réfléchissant sur ce point de départ, je crois qu'on peut dire ça. Expérience externe, expérience interne. Normalement, toute expérience externe aboutit à une certaine expérience interne. Dès que vous êtes attentif. Et puis, une certaine intuition.
Ceci, c'est pour réconcilier les amis de Maritain. Parce que Maritain dit « intuition de l'être ». Alors, nous avons vu comment, et nous verrons comment, on peut, d'une certaine manière, dire qu'il y a une intuition de l'être. À l'intérieur d'une certaine expérience interne. Et cette expérience interne est à l'intérieur d'une certaine expérience externe. De sorte que ce sont comme des emboîtements, si vous voulez, hein. Des emboîtements. L'expérience externe est la plus fondamentale. C'est pour ça que je peux dire que le véritable point de départ, c'est l'expérience externe. Mais cette expérience externe est toujours liée à une expérience interne. Et l'expérience interne est toujours liée à une certaine intuition. Je crois que c'est très difficile de faire de la philosophie si on n'a pas un petit gingin. Un tout petit peu d'intuition, un tout petit quelque chose qui nous permet de saisir. Hein. Autrement, on dégringole très vite. Alors, vous voyez, quand on dit uniquement l'expérience externe, on risque quelquefois de ne pas comprendre suffisamment que cette expérience externe est liée à l'expérience interne et elle-même est liée à une certaine intuition. C'est ce que nous essaierons de comprendre. Hein. Alors, peut-être que ça s'explique mieux comme ça. Alors, ce que maintenant nous pouvons dire, c'est que celui qui commence par l'expérience interne, en niant, en s'opposant à l'expérience externe, en disant non, pas d'expérience externe, à la manière de Descartes, pas à la manière de Plotin. Plotin accepte les deux, mais il met un ordre entre les deux. Il dit qu'en réalité, c'est l'expérience interne qui est première. L'expérience externe, elle vient confirmer. Alors, je dirais l'inverse. L'expérience interne est seconde et c'est l'expérience externe qui confirme. Qui, pas confirme, mais est première et source. Donc, vous voyez, là, c'est intéressant aussi. Entre Plotin et Aristote, quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est que pour Plotin, il y a bien deux sources. Et il y a l'intuition, c'est bien évident. Un Plotin est un intuitif. De façon étonnante, hein. Il est mystique et donc il est très intuitif. Tous les mystiques sont intuitifs. Ça peut être autrement. Ils ont une espèce de possibilité interne de saisir certaines choses que les autres saisissent différemment. L'intuition saisit des rapports. Saisit des rapports, des relations. Il est évident que quand on a une vie intérieure très grande, ordinairement, il y a la saisie de relations et de rapports. Alors, ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est que il y a des philosophes qui acceptent les deux, mais il y a un ordre entre les deux. Je dirais, dans une philosophie réaliste, c'est l'expérience externe qui est fondamentale. Et si je ne peux pas revenir toujours à cette expérience externe, il y a quelque chose que j'oublierai. Alors, il y a des philosophies qui refusent cette expérience externe comme point de départ, Descartes. Alors, on part de l'expérience interne uniquement. Si on part de l'expérience interne uniquement, très vite, on aboutira à des idéologies.
Les idéologies naissent du primat de l'expérience interne en refusant l'expérience externe. Vous voyez, je prends Descartes, l'exemple de Descartes. Descartes part du cogito. C'est le point de départ. Il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que je cogite. J'espère que vous pouvez tous dire ça en suivant un cours de philosophie. Il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que je cogite. Je cogite à quoi ? Ça dépend, hein, ça dépend. Ça peut être un rêve, ça peut être vite que ce cours soit terminé, venez, c'est des choses comme ça. Je cogite, j'ai quelque chose d'autre très pressé à faire, je cogite. Mais on est absolument certain de cogiter. C'est la certitude de cogiter. Qu'est-ce que Descartes dit tout de suite après ? Ah, de ce cogito qui est coupé des expériences externes. Qui est coupé, hein, faut bien le comprendre. Ce cogito est premier. Donc il est coupé des expériences externes. Et délibérément, parce que les expériences externes dépendent des sensations, et les sensations, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Donc, ce cogito est coupé des sensations. Ce cogito, très vite, va être source des idées. Alors, est-ce que chez Descartes, le cogito est antérieur aux idées ? Ou est-ce que cogito et idées vont ensemble ? Je crois que très très vite, le cogito est source de certitude. C'est vrai, source de certitude. Et l'idée est le point de départ, source du développement. C'est pas le cogito qui est source du développement de la pensée, c'est les idées. Et donc on peut dire que chez Descartes, vous avez déjà du biologique. Et c'est pour ça que Descartes va se poser le problème, comment des idées puis-je revenir à la réalité physique. C'est son gros problème. Et Descartes ne l'a pas résolu. Hein. Ça, il faut bien. Et c'est le gros problème d'aujourd'hui, de toute l'intentionnalité, comment à partir de l'intentionnalité puis-je rejoindre le réel. Pourquoi on se pose le problème ? Parce qu'on est parti de l'idée. L'idée, c'est une intentionnalité. Comment de l'intentionnalité puis-je revenir à la réalité physique, à la réalité existante qui s'impose à moi, aux données, peu importe comment vous l'appelez. Alors, le gros problème, si je ne pars pas de l'expérience externe, je ne rejoins. Dans l'expérience externe, la réalité physique est immédiatement donnée. Tandis que si je nie cette expérience externe et que je pars de l'expérience interne, alors je m'appuie sur le cogito, ça je comprends très bien. Je cogite, j'aime, amour, si vous aimez mieux. Ça dépend les plus affectifs. J'aime, j'ai la certitude d'aimer. J'ai la certitude d'aimer, j'en suis sûr que j'aime. Très bien. Alors, où est-ce que ça va aboutir ? Ah, c'est plus difficile de faire sortir l'idée de l'amour que du cogito. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de dire, parce que quand j'aime, je n'ai pas nécessairement des idées. Même, je dirais, le propre de l'amour, c'est de dépasser les idées. C'est peut-être le propre de l'amour. Le propre de l'amour, je ne dis pas c'est de me mettre dans le brouillard, mais c'est au point de vue des idées, mais c'est de dépasser le point de vue des idées. Tandis que le cogito est source. Alors, je comprends très bien pourquoi Descartes laisse tomber amour. J'aime. Il laisse tomber ça. Alors que Occam, prédécesseur et grand-père de Descartes, dit le point de départ, c'est intelligo et amour. Et Descartes laisse tomber, puisque pour lui, ce qui est intéressant, c'est de voir le processus ensuite, des idées. Alors vous allez dire comment Occam va s'en tirer. Occam va laisser amour, il va le laisser, du fond, c'est l'intelligo. C'est les intelligibles qui prennent, c'est exactement les idées. Donc c'est le même processus. Le processus ne peut venir que des idées. Les idées engendrent d'autres idées. Tandis que je ne dirai jamais que l'amour engendre un autre amour. C'est drôlement fait. Normalement, l'amour a quelque chose d'absolu. Donc l'amour n'engendre pas l'amour. Tandis que le cogito n'a pas quelque chose d'absolu. Il donne la certitude et il est source des idées. C'est très curieux cette chose-là. C'est intéressant à voir. Alors, vous voyez, ça répond un petit peu à la question posée, n'est-ce pas ? C'est très très vrai que l'expérience interne, c'est le cogito, la vérité, c'est l'amour et c'est l'esthétique, c'est l'inspiration. J'ai un projet. On peut très bien commencer comme ça. De fait, dans l'expérience interne, vous en avez trois. A, B, C. Trois types d'expérience interne. Si vous êtes un petit peu artiste, vous avez quand même des petites inspirations de temps en temps. Des petites inspirations sur ce que vous devez faire à l'égard du fait-géré. À l'égard des réalisations que vous avez faites. Vous avez ça au début des vacances. On est tous artistes au début des vacances. On a des petits projets. On va faire quelque chose. Je vais faire un voyage. C'est un projet, ça, c'est l'inspiration. On m'a dit que c'était tellement beau d'aller là. Alors je vais y aller. Et là, j'aurai des idées. J'aurai quelque chose de merveilleux. On m'a dit que faire ce pèlerinage, que là, il y avait des grâces étonnantes. Ouais, c'est l'inspiration, le projet. Alors, cogito, amour, inspiration, sont les trois. Or, l'amour n'est pas source d'idées. L'inspiration est facturée et source d'idées. Ah oui, ça. Et c'est pour ça qu'il y aura deux types d'idéologie, l'idéologie plus rationnelle et l'idéologie plus artistique. Ça, c'est sûr. Alors, y a-t-il une troisième idéologie plus affective ? Je ne crois pas. Je crois que le point de départ de l'amour, au fond, devrait reconduire vers le réalisme. Quand j'aime une personne qui existe. L'amour porte un réalisme en soi. Et ça peut être très bien pour moi le moyen de redécouvrir le réalisme par l'amour. Mais l'amour peut très bien s'idéaliser. J'aime Miss Idéal. Quand vous commencez à aimer Miss Idéal, qu'est-ce que c'est ? Vous aimez une idée. Vous aimez une idée. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont un idéal de vie. C'est merveilleux d'avoir un idéal de vie, surtout quand on est jeune. Mais on se casse la tête plusieurs fois avant de comprendre qu'on ne vit pas d'un idéal de vie. On vit d'un amour qui porte sur une personne. C'est pas la même chose, hein. C'est tout à fait différent. L'idéal de vie, c'est très beau, ça nous donne des ailes, mais ça risque aussi de nous mettre dans une espèce d'idéologie du fat-chéré, une idéologie poétique. Vous voyez, l'amour peut très bien, et ça arrive très facilement, quand l'amour ne retrouve pas la personne qu'on aime. Donc quand l'amour ne retrouve pas le réalisme, et je retrouve la personne que j'aime, grâce à la sensation, c'est bien évident, grâce à la présence. Il y a tout point de vue de la présence qui est nécessaire dans l'amour. Si l'amour ne retrouve pas cette présence, l'amour s'idéalise. Et un amour qui s'idéalise est tout simplement source d'amour idéal. De sorte que je crois que c'est assez simple de comprendre que l'expérience interne est présente dès qu'il y a une expérience externe forte, qui est un point de départ de la philosophie. Donc je n'exclus pas l'expérience interne. Elle est intégrée, mais elle est relative à l'expérience externe. Elle la dépasse, mais elle reste toujours liée à l'expérience externe pour être un point de départ philosophique. Et elle implique presque toujours une intuition. Presque toujours. De sorte que je dirais, vous voyez, le trépied de Socrate, le trépied de Delphes. Vous pourriez très bien dire le point de départ d'une philosophie réaliste, l'expérience externe, l'expérience interne, l'intuition. Mais en mettant un ordre, alors ça il faut toujours, hein, dès qu'il y a plusieurs, il faut un ordre, autrement vous tombez dans l'anarchie. Alors il y a un ordre. Il y a un ordre, c'est que l'intuition, je sais qu'elle provient d'une expérience interne, et que l'expérience interne, elle s'appuie sur l'expérience externe. Et c'est là le fondement. Et c'est pour ça que c'est bien l'expérience externe qui est le fondement comme point de départ de ma philosophie, sans exclure le reste. On parle partout, qu'on fait mention et autres, du système aristotélicien. Et vous dites que
quand on est une philosophie réaliste, pas de système. Je maintiens qu'Aristote, c'est pas un système. Et c'est une vision très erronée d'Aristote de dire que c'est un système. Pourquoi ? Parce que la pensée d'Aristote est une pensée analogique. Qui dit pensée analogique brise tout système. Ça ne peut pas être un système. Alors, comprenons pourquoi on dit ça. C'est toujours intéressant de voir d'où vient l'erreur. C'est que, à partir d'Occam, il faut remonter jusqu'à Occam. À partir d'Occam, on a considéré que la métaphysique et la logique, ça ne faisait qu'un. Pas les logiciens d'aujourd'hui, mais les logiciens du temps d'Occam considèrent que la logique et la métaphysique ne font qu'un. Alors, si j'identifie métaphysique et logique, je dirais qu'Aristote, c'est le grand-père de toute logique. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Même la logique mathématique. Boransky a voulu écrire un petit livre pour montrer que Aristote était le grand-père de la logique mathématique. On a beaucoup lutté là-dessus, ensemble. Ça a été l'occasion de lutter pique. Mais ce qui était intéressant, parce que lui prétendait qu'il y avait une continuité entre la logique d'Aristote et puis la logique mathématique. Et je prétendais qu'il n'y avait pas de continuité entre les deux. Et je maintiens mon point de vue. Et lui aussi. Alors c'est très bien. Nous mourrons chacun dans notre... Je ne sais pas comment on se retrouvera de l'autre côté. Vous savez rien. Alors ce qui est sûr, c'est que si j'identifie métaphysique et logique, à ce moment-là, je fais de la métaphysique un système. La logique est source des systèmes. Ça, c'est très vrai. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'un logicien veut que tout soit rationnel. La source du rationalisme et du rationalisme étroit. Le rationalisme étroit, c'est intéressant, vous savez, de temps en temps, de lire l'école rationaliste qui existe et qui continue d'exister. C'est intéressant de se mettre dedans. Je vous apporterai ce soir, parce que je ne l'ai pas maintenant ici, je l'ai laissé dans ma sacoche. Mais tout à l'heure, c'est ce livre qui vient. La vie existe-t-elle ? Très, très, d'un rationaliste. Et alors on montre que la vie n'existe pas. Elle ne peut pas exister, la vie, parce qu'elle n'est pas rationnelle. C'est vrai, je veux réduire la vie au physique, et je veux réduire donc au rationnel, au mathématique. Le monde physique est mathématique, or le monde vital n'est pas entièrement mathématique. Vous savez bien, Monod avait dit, et c'est là les deux écoles qui s'opposent, Monod avait dit, la vie n'est pas dialectique, donc elle n'est pas rationaliste. Il y a dans la vie des poussées invraisemblables. Comment expliquer que d'un grain de blé, il y en sort tant ? Et on ne sait jamais exactement combien il en sortira. C'est très difficile de savoir les bonnes années de vin et les mauvaises années de vin. C'est pas très rationaliste non plus. Évidemment, on pourrait le dire après coup. Mais avant, c'est difficile. C'est très difficile. L'autre jour, quelqu'un de Bordeaux m'a dit 82 sera une très bonne année. Pour le Bordeaux, je ne sais pas si pour le vin du Valais, c'est une bonne année. Mais pour le Bordeaux, c'est une très bonne année. Hein. Misez dessus, c'est un bon cheval. Alors, allez-y. 82 est une excellente année. C'est, parce que, paraît-il, il y a eu tous les différents moments. La vie n'est pas rationaliste. Alors, il faut comprendre qu'une pensée qui essaie de comprendre la diversité qualitative ne peut pas être un système. Un système, c'est toujours logique. Je veux bien dire qu'il y a des systèmes logiques différents, mais pas philosophiques. La philosophie n'est pas un système. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des axes de recherche vers lesquels on tend. Mais ce n'est pas systématique. Vous voyez, si c'était systématique, je pourrais dire, je suis arrivé à cette synthèse et maintenant je m'arrête. Nous n'avons jamais de synthèse philosophique. Jamais, parce que chaque fois que vous découvrez quelque chose de nouveau,
vous êtes obligé de tout repenser. C'est très beau, du reste. Ça vaut qu'on doit tout le temps continuer de penser. On ne peut jamais s'arrêter. Quand j'ai dit, ah, maintenant, c'est terminé. Oui, vous pouvez faire ça pour un petit mémoire, hein. Alors, vous bouclez la valise. Mais ça, vous bouclez la valise. Vous savez très bien que ce n'est qu'une valise et que ce n'est qu'un mémoire. Ce n'est pas votre philosophie. La philosophie est autre chose que ça. Vous pouvez boucler un travail dans le facere, mais vous ne pouvez pas vous arrêter dans une recherche philosophique. Une recherche philosophique implique quelque chose qui est tout le temps ouvert. C'est ce qu'il y a de merveilleux. Et c'est que l'intelligence humaine a une capacité d'infini. Feuerbach le reconnaît. Alors, c'est intéressant. Feuerbach reconnaît que la faculté de l'intelligence est quelque chose d'infini. Et tous les savants le reconnaissent. Les savants reconnaissent que la science peut progresser toujours. Alors, si la science peut progresser toujours et que la philosophie ne peut pas progresser toujours, ce serait lamentable, vous voyez ? Alors vous tomberiez dans un système philosophique qui serait clos. La philosophie est au service de l'homme. Et donc si la philosophie est au service de l'homme, je sais très bien que ma philosophie n'épuise jamais l'homme. L'homme a une richesse plus grande que ma philosophie. Et si l'homme a une richesse plus grande que ma philosophie, ça veut dire justement que ma philosophie n'est pas un système. Puisque ma philosophie est mesurée par l'homme. C'est vrai, j'essaie de comprendre ce que c'est que l'homme. J'essaie de comprendre ce que c'est que l'homme dans toutes ses dimensions. Et si j'essaie de comprendre l'homme dans toutes ses dimensions, je m'aperçois que je dois aller toujours plus loin. Bon, alors, en définitive, y a-t-il deux formes de pensée dialectique et analogique ? Eh bien oui, ça je le crois. Et on ne va pas traiter ça, parce que ça, c'est au terme de toute la philosophie. Mais posez-vous la question. Il y a des questions comme ça qu'on doit se poser, parce que ce sont des questions clés. En définitive, hein, je dis bien en définitive, n'y a-t-il pas que deux seules formes de pensée ? Une pensée analogique et une pensée dialectique. La pensée analogique n'exclut pas la dialectique. Et la pensée dialectique exclut la pensée analogique. La pensée analogique n'exclut pas la dialectique, parce qu'elle reconnaît qu'à un certain niveau, il y a une certaine pensée dialectique. Alors, à quel niveau y a-t-il une pensée dialectique ? Au niveau des opinions, au niveau des idées. Mais la réalité n'est pas dialectique. Ce sont les idées qui permettent la dialectique. Or, comme ma philosophie ne veut pas s'arrêter aux idées et veut s'arrêter à la réalité, la philosophie va impliquer une certaine phase dialectique. Ça, très très bien. Il y a une certaine phase dialectique. Il y a un certain devenir dialectique de la pensée. Ça, j'en suis sûr. Vous voyez, telle position en appelle telle autre, comme exactement au point de vue politique. La politique est dialectique. Ça, c'est évident. Elle n'est pas suffisamment intelligente pour être analogique, vous voyez. Alors elle est dialectique, elle s'arrête au niveau des opinions, elle s'arrête au niveau des persuasions. Les sophistes, on voit très bien, il s'agit de persuader, il s'agit du vraisemblable, il ne s'agit pas de la recherche de la vérité. Alors la politique, elle, est dialectique. Une position, vous n'avez qu'à regarder quand il s'agit de votation, c'est très intéressant de voir qu'on s'appuie sur l'adversaire. Alors quand l'adversaire est puissant, ça tient. Mais quand l'adversaire est faible, ça craque. On s'appuie sur l'adversaire. Tous les programmes politiques sont toujours dialectiques. Mais tout le temps, quand on fait l'analyse, c'est pas philosophique, point pouce. Mais c'est dialectique. C'est dialectique, c'est-à-dire c'est lié à une rhétorique. La dialectique est très liée à une rhétorique. Parce qu'elle est liée aux opinions, elle est en vue du vraisemblable. Alors, une dialectique qui se veut absolue exclut toute pensée analogique. Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée analogique ? Ça, c'est plus difficile. La pensée analogique, c'est de comprendre que dans la diversité, il y a une certaine unité. Et c'est de rechercher l'unité dans la diversité. Alors, vous allez tout de suite saisir le point de départ de la pensée dialectique. Le point de départ de la pensée dialectique, c'est que vous avez cinq sensations. Cinq sensations diverses. Et cependant, toutes les cinq sont des sensations. Donc, toutes les cinq impliquent une certaine connaissance. Je vois donc que, si je regarde ma première forme de connaissance, qui est la sensation, je vois donc que ma sensation, ma connaissance, implique tout de suite une diversité, et dans cette diversité, une certaine unité. Si je réfléchis là-dessus, je m'aperçois ce que c'est que l'analogie. L'analogie, c'est d'accepter la diversité en premier lieu et de rechercher à l'intérieur de la diversité l'unité. Alors je pose la question, est-ce que la dialectique, c'est pas l'inverse? C'est de vouloir à tout prix partir de l'unité pour assumer la diversité. Autrement dit, dialectique et analogique reconnaissent tous diversité et unité. Mais le lien entre les deux n'est pas le même. Je pars de la diversité pour découvrir l'unité, ça c'est la pensée analogique. Je pars de l'unité pour assumer la diversité, c'est la pensée dialectique. Mais des deux côtés, vous avez diversité et unité. Alors vous réduisez dans la dialectique, vous réduisez la diversité à deux opposés, à deux contradictions, à deux opposés extrêmes, pour mieux saisir comment l'unité va faire la synthèse des deux extrêmes. C'est le propre de la pensée dialectique, ça. Tandis qu'au contraire, dans la pensée analogique, vous n'avez pas besoin de réduire aux deux extrêmes. Vous acceptez la plus grande diversité qui soit. Vous respectez la diversité. Alors ça, on est un peu méchant, on dirait qu'une pensée dialectique ne respecte pas la diversité. Elle réduit la diversité à une certaine unité. Tandis que l'analogie respecte la diversité pour saisir à l'intérieur de la diversité une certaine unité. Mais c'est très curieux, des deux côtés, on trouve diversité et unité. Ce qui montre bien que la pensée humaine implique une très grande complexité et à travers cette très grande complexité, elle aspire à une certaine unité. L'intelligence humaine est faite pour l'unité, mais à travers la diversité. Mais elle est faite pour l'unité. Toutes les vous voyez, ça serait intéressant aussi, parce que c'est peut-être par là qu'on trouverait l'œcuménisme philosophique. C'est toujours intéressant, le problème de l'œcuménisme philosophique. Et bien, je crois que toutes les philosophies tendent vers l'unité, mais elles y tendent diversement. Elles y tendent diversement. Elles y tendent en respectant une diversité, ou elles y tendent, si vous voulez, en supprimant la diversité. Alors à tout à l'heure, c'est ici la salle, tout à l'heure, salle 2.